tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale.
Où vous soyez de par le monde, l'université décompose le temps historique en quatre périodes, ce que vous avez dit, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne c'est 16, 17, 18e siècle. À partir de la Révolution française chez nous, à partir de la fin de l'Empire chez les autres, nous rentrons dans la contemporaine. Mais nos chercheurs, qui étaient les meilleurs universitaires ou spécialistes de géopolitique issus de 40 pays, sont arrivés très vite à nous dire « c'est complètement occidental ou centré cette structuration d'histoire universelle ». Et donc, si vous voulez, ça change toute la manière de voir. On s'est rendu compte que si on veut avoir un temps de l'histoire universelle, une structuration de l'histoire, des mouvements de balancier qui collent pour tout le monde, ben on s'est rendu compte que c'est la mer qui nous donne ça. C'est-à-dire que l'histoire, revisitée sous l'angle maritime, elle devient simple, facile à comprendre, elle donne presque du sens.
À votre avis, quel a été l'impact de la mer dans l'histoire de l'humanité? Plutôt anecdotique ou incontournable? Ça tombe bien, puisque c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode d'ECHO consacré au programme Océanide. Durant trois épisodes, le Centre d'études stratégiques de la Marine revient sur ce programme parmi les plus ambitieux depuis la grande encyclopédie du XVIIIe siècle. Son objectif ? Évaluer l'impact du fait maritime dans l'histoire de l'humanité. Et justement, quel impact a eu la mer dans l'histoire ? Quelles sont les conclusions des quelques 260 chercheurs issus de 40 pays différents ? Et surtout, quels enseignements tirer de ce programme de recherche publié en 2017 ? Pour répondre à toutes ces questions, le CESM a le plaisir de recevoir le directeur scientifique d'Océanide, M. Christian Bucher. Et alors je précise, vous avez été le directeur scientifique d'Océanide, mais vous êtes aussi directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Bonjour et bienvenue dans ECHO.
Bonjour à tous, ravi d'être là, de partager avec vous ces convictions qui nous ont portés. Mais au terme du programme Océanide, la conviction que certains pouvaient avoir sur le rôle essentiel, central même de la mer dans l'histoire de l'humanité, sur 5000 ans en fait, on n'a vraiment pas lésiné, ce n'est plus une conviction partagée, c'est devenu une démonstration, car c'est un travail scientifique qui a réuni, vous l'avez dit, sur 5 ans, 264 chercheurs. Alors le cahier des charges était très précis, c'est intéressant d'ailleurs dans le cadre d'un programme international, parce qu'il ne s'agit pas, quand on est français, d'inviter 3 Belges et un Canadien pour qualifier ça d'international. Non, c'est 264 chercheurs issus de 40 pays, ça a été dit, mais pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux français inclus. Donc c'est vraiment un programme mondial. Et on a pesé donc sur 5000 ans d'histoire, donc depuis la préhistoire, si vous voulez, donc d'histoire, le poids de la mer dans toutes ses composantes dans l'histoire de l'humanité.
Et alors justement, Christian Bucher, super entrée dans le sujet, puisque là on est plus de 5 ans après la publication du projet Océanide. Quelle conclusion, quelle leçon est-ce qu'on peut en tirer plus de 5 ans après sa publication ?
Les conclusions, je peux vous les donner. Il y en a trois principales. D'ailleurs, je crois qu'on va consacrer une émission à chacune de ces trois éléments.
C'est ça. Et celle actuelle, c'est celle que l'on consacre dans l'épisode actuel, c'est l'impact de la mer dans l'histoire.
C'est-à-dire la mer, moteur ou clé de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, revisitée sous l'angle maritime, elle devient simple, facile à comprendre, elle donne presque du sens. Mais c'est pas simplement pour se projeter dans le passé, c'est que ce sens nous éclaire face à un avenir. Alors il y a des États qui, à travers des défaites, parfois en sont arrivés aux mêmes conclusions que nous. Et je crois que l'histoire, le programme Océanide, à travers le rôle de la mer dans l'histoire, c'est porteur d'avenir, c'est porteur de sens.
Vous l'avez rapidement évoqué, mais donc le projet Océanide a considéré davantage l'histoire du point de vue de l'espace maritime que l'histoire du point de vue de l'espace terrestre.
On l'avait jamais fait.
Surtout, on l'avait jamais fait et surtout, qu'est-ce que ça nous apporte ? Est-ce qu'on n'a pas eu trop tendance à raconter l'histoire du point de vue terrestre ? Et quels sont les atouts de la mer dans ces cas-là ?
La mer, c'est pour les uns, c'est ce qui sépare, pour les autres, c'est ce qui réunit. Bon, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait à l'époque, on avait les journées franco-anglaises d'histoire de la marine tous les ans ou tous les deux ans. Et en gros, je caricature un peu, les Français disaient en substance, ah bah vous avez la chance, vous Britanniques, parce que vous êtes naturellement protégés, vous êtes une île. Hein. Et les Anglais qui disent, mais vous plaisantez ou quoi? Il n'y a pas plus facile d'accès que d'être une île parce qu'on peut arriver de partout. Et qui a raison? Bah, très honnêtement, la mer ou le liquide ne sépare pas, c'est la plus formidable voie de communication. Non, c'est les Anglais qui ont raison.
La mer est un vecteur de connectivité.
Absolument. Et aujourd'hui, plus que jamais. Faut-il rappeler que 98% de toute l'information passe par des câbles à fibre optique sous-marin. Tout le commerce international à plus de 92% en volume passe par la mer. Et tout ça, il faut relier ça, vous savez, à la géopolitique, parce qu'il y en a un qui, visiblement, avait les conclusions d'Océanide, ou plutôt les avait pensées, et probablement avant même qu'on officialise les choses, c'est le président chinois. Il s'est passé quelque chose de très grave, on est toujours dans la maritimité. C'est la dernière venue en Europe du président chinois Xi Jinping, c'est en juin 2019, il a commencé par l'Italie, vous en souvenez peut-être. Pourquoi ? Parce que l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a loué un accord séparé dans le cadre de la Chine, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, parce que la Chine, dans les 10 ans, va s'organiser l'Interland, c'est-à-dire le raccordement terrestre des 3 grands ports italiens du Nord, Gênes, Savone, Trieste, ce qui veut dire que si nous, Français, si nous, Européens, dans les 10 ans, on ne raccorde pas Marseille à Lyon de manière plus structurée et structurelle, on aura planté toute la compétitivité, l'économie française du quart sud-est de la France et les gens qui vivent avec. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses à dire. La mer, ce n'est pas uniquement la pêche. La mer, c'est les flux.
Effectivement.
Et aujourd'hui, ça sera plus que ça.
Et alors justement, dans le cadre de l'histoire, parce que le sujet de cet épisode, c'est l'histoire, c'est qu'en fait, votre projet Océanide a réussi à décomposer les 4 temps de l'histoire, à savoir Antiquité, Moyen-Âge, Époque moderne et Époque contemporaine. Elle a réussi à les regrouper, ces 4 temps, en 2 temps. Le temps des Méditerranées et le temps de l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est le temps des Méditerranées et quel est le temps de l'Atlantique et quelles sont les différences ?
D'abord, une petite remarque. Effectivement, où vous soyez de par le monde, l'université décompose le temps historique en 4 périodes, ce que vous avez dit, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, il faut rappeler pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas toujours à fond dans le bain historique, la période moderne, c'est 16, 17, 18e siècle. À partir de la Révolution française chez nous, à partir de la fin des guerres, de la Révolution et de l'Empire chez les autres, nous rentrons dans la contemporaine. Mais, encore une fois, on le disait, nos chercheurs, qui étaient les meilleurs universitaires ou spécialistes de géopolitique issus de 40 pays, sont arrivés très vite à nous dire, mais on le savait tous déjà, mais c'est complètement occidentalo-centré, cette structuration d'histoire universelle. Ça colle pas pour l'Asie, ça colle pas pour l'Afrique, ça colle même pas pour la Polynésie, ça colle pas pour l'Amérique précolombienne. Et donc, finalement, mais c'était pas le but initial.
Puis surtout, c'était une histoire terrestre aussi. C'était une histoire vue du point de vue terrestre, potentiellement.
Totalement terrestre, avec ses voisins. Et donc, si vous voulez, ça change toute la manière de voir. On s'est rendu compte que si on veut avoir un temps de l'histoire universelle, une structuration de l'histoire, des mouvements de balancier qui colle pour tout le monde et qui ne soit pas une vision, ça c'est le fruit de l'histoire aussi, de l'Occident, ben on s'est rendu compte que c'est la mer qui nous donne ça. Pourquoi ? Parce que la mer, c'est l'instrument de communication qui met en contact ou, lorsqu'on ne la pratique pas, qui ne met pas en contact. Mais dans tous les cas de figure, ça impulse. Et vous l'avez dit, et merci d'avoir lu les travaux d'Océanide, il y a simplement 2 temps derrière nous. Il y a ce qu'on appelait le temps des Méditerranées. Je dis bien des Méditerranées au pluriel, parce que contrairement à ce qu'on a tous appris dans les petites classes, pour ceux qui s'en souviennent encore, toutes les grandes civilisations sont nées autour de la Mare Nostrum, la Méditerranée occidentale. Ouais, c'est hyper sympa, mais au même moment, autour d'une autre Méditerranée, que François Gipoulou a été d'ailleurs le premier à appeler comme ça, qui est la mer de Chine, pour faire court, vous avez au même moment tout un tas de civilisations qui sont ni plus ni moins intéressantes. Nous avions un monde un peu comme une pièce, c'est-à-dire 2 épicentres autour de qui s'ignoraient un petit peu, sauf, et ça fait nous amener sur la géopolitique, parce que Océanide remet en cause totalement la géopolitique telle qu'elle est pratiquée jusqu'à aujourd'hui.
Oui, mais ce sera l'objet du 2e épisode.
Donc j'en parle pas. Mais on s'est rendu compte, si vous voulez, que c'était, il y a eu 2 épicentres. Et puis, à un moment donné, donc ça va recouvrir toute la période antique, et toute la période médiévale. Alors bien sûr, souvent quand on pense à la période médiévale d'un point de vue maritime, c'est le mot viking qui revient toujours. Oui, mais les vikings, les gens du Nord, ils sont allés en Méditerranée. Parce qu'à travers toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'épicentre, c'est la Méditerranée. Donc le temps des Méditerranées. Et puis, il va y avoir un basculement. Alors, je dirais, il y a un big bang géographique, je me dis ça un peu pour marquer les esprits, de 4 années.
C'est ça.
4 années qui vont provoquer un basculement, même si ça mettra un siècle à être parfaitement réalisé.
C'est ça, c'est de 1488 à 1492 environ, cette bascule des 4 années.
Alors oui, alors c'est quand même, c'est pas environ, c'est très précis. Faut-il rappeler qu'est-ce qui s'est passé en 1488? 1492, c'est relativement connu. Bon, mais 1488, c'est presque plus important. C'est un Portugais du nom de Bartolomé Dias, on peut l'écrire avec un S ou un Z à la fin, chacun son propos orthographique, qui est le premier à doubler la pointe sud de l'Afrique, qui est le Cap de Bonne-Espérance. Quel est l'exploit ? Parce que souvent on me dit, mais c'est quel est l'exploit du gars ? C'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler, il suffit d'aller plein sud, et puis à un moment donné, côté bâbord chez nous, côté gauche chez les autres, on se dit, il n'y a plus de terre, c'est bon, on est de l'autre côté. Non, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Il y a un endroit, compte tenu des vents et des courants, vous ne pouvez pas passer. Et le coup de bol de Bartolomé Dias, son gouvernail explose. Il faut 3 jours à ces charpentiers pour en refaire un autre. Et donc, pendant 3 jours, sa coque de noix est emportée en fonction des vents et des courants. Il est emporté grand sud-ouest. On pense aujourd'hui qu'il était plus près des côtes brésiliennes que d'Afrique. Et là, vous avez des vents, des courants porteurs, les alizés inversés, si vous voulez, qui vous ramènent de l'autre côté. Et bien maintenant, on sait y aller. Il faudra aller plein sud-ouest pour revenir. Mais ça va tout changer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec ce doublement du Cap de Bonne-Espérance ? Tout le commerce international, depuis la plus haute antiquité, passait par la Méditerranée. C'est quoi le commerce international ? C'est 2 types de produits qui peuvent sembler un peu superfétatoires, superflus aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Depuis la plus haute antiquité gréco-romaine, ce sont les épices et les parfums. Pourquoi ? Parce que le parfum lutte contre ce qui pue, contre les mauvaises odeurs, il y avait un problème de lavage, etc. Mais c'est plus que ça, le parfum. Le parfum lutte contre le pu. C'est-à-dire, c'est l'infection. C'est-à-dire, le parfum avait des vertus médicinales. Puis les épices, le français à pair n'avait pas inventé la conserve, on n'avait pas de frigo, etc. La nourriture était souvent avariée, elle n'était pas très diversifiée, il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de haricots, il n'y avait pas de maïs, il n'y avait même pas de pommes de terre. Donc le seul moyen de cacher la puanteur, varier le goût, c'était l'épice. Donc c'est pour ça que depuis la plus haute antiquité gréco-romaine, on va chercher les épices et les parfums. Mais ça arrivait comment en Occident, ces épices et ces parfums ? Ben de caravane de chameaux en caravane de chameaux par voie terrestre, jusqu'aux 2 grands ports qui étaient déjà à l'époque de l'Antiquité, Beyrouth et Alexandrie. Alors après, vous connaissez la suite de Feuilleton, hein, c'est les galères de Venise, de Gênes, de Pise, qui vont nous ramener tout ça dans l'Europe occidentale. En fonction des périodes, je vais un petit peu à l'essentiel, on considère qu'entre le point de départ, l'Indonésie, et chez nous, il y avait peut-être entre 800 à 1200 intermédiaires. Sauf que, en l'espace d'un siècle, ça va être fini. À cause ou grâce, comme vous voulez, à Bartolomé Dias. Parce que maintenant, ces épices et les parfums, on ne va plus les chercher par voie terrestre. D'abord parce qu'il y a eu des invasions, les musulmans ont bloqué une partie des routes, donc c'est compliqué. On va les chercher par voie maritime. C'est-à-dire, c'est la fin du temps de la Méditerranée occidentale. Nous rentrons dans le temps de l'Atlantique. Et ça sera encore plus vrai 4 ans après, parce que bien sûr, c'est la découverte des Amériques. Maintenant, ce sont les armateurs des pays occidentaux qui vont aller chercher directement ces épices et ces parfums. Mais pour montrer à quel point ça change les choses, vous n'aurez plus entre 800 et 1200 intermédiaires qui, de caravane de chameau en caravane de chameau, vont arriver jusqu'ici. Vous aurez quoi ? 50, 100 intermédiaires. C'est-à-dire que l'Occident, et pour être plus précis, pas les pays méditerranéens, mais les pays atlantiques, ceux qui vont piquer vers le Cap de Bonne-Espérance, qui vont aller chercher ces épices et ces parfums. C'est-à-dire que maintenant, nous rentrons dans le temps du commerce inéquitable. Seuls les pays occidentaux de l'arc atlantique vont s'arroger tous les fruits du commerce international quand les autres n'auront plus rien. Les conséquences, c'est énorme. Vu qu'on est très fort, même de ce point de vue, on ramène des sous, on a l'argent, on a une technique, c'est même nous, comme disent les textes de l'époque, qui allons faire le commerce d'Inde en Inde, qui allons pratiquer le commerce entre l'Inde et la Chine, entre la Chine et l'Indonésie. C'est-à-dire, à la fin du XVIe siècle, seuls les pays occidentaux, seule l'Europe connaît un take-off, un développement économique incroyable, quand tous les autres restent en céphalogramme plat. Nous rentrons dans le temps de l'océan Atlantique, dans le temps de l'Atlantique. Sauf que maintenant, nous sortons du temps de l'Atlantique. Et ça change tout. Même si tous les jours, avec les événements douloureux qui se passent en Ukraine, on parle de l'Alliance Atlantique. Mais nous rentrons dans un autre temps.
Et on y reviendra vraiment dans quelques instants. Mais j'aimerais avant ça parler de l'océan Indien. L'idée, c'est que au fur et à mesure de ces 3 épisodes, on évoque un concept particulier. Et le concept dont je veux vous entendre parler, c'est celui d'EARTHSEA. Parce que le programme Océanide s'est intéressé à l'océan Indien. Et l'une de vos conclusions, c'est que visiblement, il a toujours été au cœur de l'histoire, notamment Rome et sa chute à cause de l'océan Indien. Donc, cet océan Indien est lié au concept d'EARTHSEA. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Alors, Mackinder nous dit « Celui qui tient l'Eurasie tient le monde ». Et cet Eurasie, vu qu'il est british, il appelle le Heartland. Celui qui tient l'Eurasie tient le monde. Ce qui a expliqué des menées stratégiques lors de la Première et à plus forte raison lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous tenez l'Eurasie, vous tenez le monde. Bon, on s'est rendu compte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un Américain du nom de John Speakman. Et donc, John Speakman complète la notion de Heartland, cette Eurasie qu'il faut tenir, par la notion de Rimland, R-I-M-L-A-N-D. C'est-à-dire, quand on se rapproche de la mer, il dit, oui, mais la périphérie, les terres du bord, ça compte. Et avec les travaux d'Océanide, c'est pas qu'on était obsédé de l'océan Indien, c'est qu'on a découvert le rôle, en pesant l'histoire vue de la mer à travers 5000 ans, que finalement l'épicentre des flux, c'est un peu l'océan Indien. On parlait à l'instant de Rome, on parlait du temps des Méditerranées, de Méditerranée, la Méditerranée occidentale, la mer de Chine, mais on s'est rendu compte, en faisant intervenir les meilleurs spécialistes de Rome, hein, qui travaillent à Oxford, on s'est rendu compte que Rome a prédominé, certes, parce que Rome est une puissance maritime, On parle même de Pax Maritima à l'époque de Rome. Pas simplement parce qu'elle maîtrisait le commerce, les flux dans la Méditerranée, mais accrochez-vous bien, ça c'est l'un des apports de Sanide, parce que Rome maîtrisait les flux dans l'océan Indien. Et c'est quand Rome a commencé à perdre la maîtrise des flux dans l'océan Indien qu'ils ont dégagé moins de revenus, moins d'argent, ne permettant plus d'animer un effort de défense, il faut payer les mercenaires, etc., les catapultes, qui a permis de tenir pour lutter contre les Gauls, les Ostrogoths et autres Visigoths. On s'est rendu compte que celui qui maîtrise les flux dans l'océan Indien tient le monde. Et ce que je vous dis là, c'est gravissime, mais c'est ni plus ni moins la stratégie qui ne s'appelle pas comme ça, des nouvelles routes de la soie du président chinois Xi Jinping.
Et ça permet justement, vous me faites vraiment, vous me tendez le bâton,
ah,
pour le temps de l'océano-temporain, c'est-à-dire ce troisième temps dans lequel on est passé.
Nous rentrons.
Et nous rentrons, et qui se fonde visiblement sur la fluidité, la connectivité, la maritimité, mais surtout le temps du réveil chinois.
Oui, alors heureusement, c'est pas que ça, parce qu'autrement, il y aurait de quoi se mettre la tête contre les murs. Hein. Que vous dire ? Deux temps derrière nous. Le temps des Méditerranées, le temps de l'Atlantique. Nous sortons aujourd'hui du temps de l'Atlantique. Alors, ça ne s'opère pas comme une révolution 14 juillet 1789, 12h12. Hein, il y a toujours dans l'histoire une trentaine d'années de transition. Voire plus, ça peut être moins, ça peut être plus. Bon, est-ce qu'on est vraiment rentré dans le temps de l'océan mondial ? Ah, peut-être pas, mais c'est dans quelques poignées de secondes. En tous les cas, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en train d'en sortir. Et donc, nous avons une chance folle de connaître ça. C'est pas une source d'ennui. Non, au contraire, c'est une source d'opportunité. Sauf qu'il faut tout changer. Notre manière de voir, d'avoir et d'être.
Déjà, pour les auditeurs, c'est quoi l'océan temporel?
Petite remarque en passant. Si nous avions opté pour le temps du Pacifique, on l'aurait marqué si c'était historiquement vrai. Là, on aurait eu de quoi s'inquiéter, parce que ça voudrait dire que l'Occident, à commencer par l'Europe, serait un petit peu sur le banc de touche de l'économie mondiale. On parle non pas du temps du Pacifique, ce serait logique, temps de Méditerranée, de l'Atlantique, non, non, le temps de l'océan mondial. C'est un temps tout à fait nouveau. Il faut changer de paire de lunettes. C'est quoi ce temps ? Ben, c'est le temps dans lequel nous rentrons, qui nous amène à voir la mer différemment. La mer différemment, pourquoi ? Parce qu'on peut aussi considérer l'histoire de l'humanité comme une vague pérégrination des populations intérieures vers le littoral. Ce qui va caractériser ce temps de l'océan mondial, et on y est, c'est que en 2030, mais c'est demain matin, quoi, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale d'une largeur de 75 km. Facile à retenir, 75-75. Je répète, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de lourd, de massif. 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km. J'avais en son temps piloté sous l'autorité de Jean-Louis Borloo le Grenelle de la mer. Et on avait vu que la mer contient, on n'a pas dit la totalité, on aura peut-être péché par excès d'optimisme, mais la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, désirable. C'est-à-dire toute la population mondiale est concentrée autour de la mer, et sans la mer, on ne passe pas. Sauf que cette mer, il faut la considérer pour ce qu'elle est vraiment. Durant les 5000 ans d'histoire qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui, on a simplement perçu la mer dans l'accord avec l'environnement marin à travers une seule dimension, la surface. Mais elle en a trois autres, la mer dimension. Et c'est bien pour ça qu'elle contient la quasi-totalité des solutions. Deuxième dimension de la mer après la surface, c'est la tranche d'eau, l'épaisseur d'eau, qui descend à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. Bon, il y a encore un peu plus d'un siècle, et ça a été tout le génie, tout l'apport scientifique majeur de l'arrière-grand-père d'Albert II de Monaco, donc Albert Ier de Monaco. Il mettait des balances qui descendaient au fond, il les fermait pour qu'elles ne recueillent rien dans les 250 premiers mètres, parce qu'on était convaincu qu'à une profondeur plus profonde que 250 mètres, on était dans ce que les scientifiques appelaient une zone azoïque, c'est-à-dire une zone où la zoologie n'existait pas. Et il a pu montrer que dans les profondeurs, la vie existait, ce qu'on sait aujourd'hui. Mais on est à peine un peu plus d'un siècle.
Et donc ça, c'est la deuxième caractéristique.
Deuxième dimension, l'épaisseur d'eau, qui descend à plus de 11 km. Troisième dimension de la mer, et ça on a tendance à l'oublier, la Terre porte bien son nom parce que sous le rideau bleu, qui représente 72% de la surface de la Terre, c'est-à-dire que 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Il ne faut pas l'oublier. 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées, mais alors qu'on ne connaît pas. Alors, vous allez me dire, si, c'est pas vrai, parce qu'on a tous un planisphère où on voit bien ces montres. Non, on ne les a pas vues. Et donc c'est par déformation millimètre près de la surface de la mer qu'on a reconstitué ce qu'il y a dedans. Mais on connaît mieux la surface de la Lune, ça va sans dire, la surface de Mars que le fond des mers. Ça c'est la troisième dimension. Il y a une quatrième dimension de la mer. Donc 1, surface, 2, tranche d'eau, 3, 72% des terres planétaires sont des terres immergées. Quatrième dimension de la mer, on sait aujourd'hui que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Et ça, on n'y est quasiment jamais allé. C'est bien pour ça que, contrairement à ce que écrivait Paul Valéry, qui disait il y a quelques décades, nous sommes dans un monde fini, attendez, on ne connaît rien. Quand je commençais à travailler sur la mer il y a bien 25 ans maintenant, On considérait qu'on connaissait entre 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Alors aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Hein. Si vous prenez tout ce qui est biomimétisme, etc., on est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, si on prend du séquençage, non pas de paramètres suivis, mais croisés, on ne connaît pas probablement plus de 3% de la microbiologie marine. Voyez le potentiel de la mer.
Et alors, justement, si vous citiez ces quatre caractéristiques, c'était pour parler de l'océano-temporin. On a parlé de réveil chinois. Si vous citiez les quatre caractéristiques, c'était pour expliquer d'une certaine façon que ce temps-là de l'histoire risque d'amener une nouvelle perception de la mer, de l'océan.
Sans la mer, on ne passe pas.
Je cherche un peu à comprendre quand même ce que va signifier cet océano-temporin pour les années à suivre.
Alors, toute la population mondiale est concentrée sur la mer. Donc, sans la mer, on ne passe pas. Pourquoi ? Parce que la mer, il faut qu'elle puisse nous aider au niveau alimentaire, il faut qu'elle puisse nous aider au niveau énergétique, il faut qu'elle puisse nous aider au niveau de la santé, peut-être même, pourquoi pas, au niveau des bien-être, il faut qu'elle puisse nous aider même, pourquoi pas, en termes de construction. Et la mer, je ne sais pas si on peut rentrer ou si vous souhaitez qu'on rentre dans ces différents éléments, la mer peut nous aider dans tous ces compartiments-là.
Donc là, c'est la fin d'un usage limité et c'est l'ouverture potentielle vers de nouveaux usages qui est inaugurée par ce nouveau temps.
Alors, là, on va mettre le doigt sur des questions environnementales, parce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'on a la mer. Mais il ne s'agit pas de faire avec la mer les bêtises, pardonnez-moi, qu'on a fait avec la terre. J'entends souvent dire, depuis pas mal d'années, oh, le pétrole, il n'y en a plus que pour X années. Bon, on a regardé ça de près avec des spécialistes. En gros, il n'y en a plus que pour 35 ans. Mais lorsqu'on a calculé les choses, on s'est rendu compte que ça faisait 14 ans et 8 mois qu'il n'y en a plus que pour 35 ans. C'est-à-dire, faut-il rappeler que le pétrole est issu de la décomposition d'algues. Donc, vous savez, il y a du pétrole dans le Sahara, et toujours encore un peu sans doute, parce qu'autrefois, le Sahara était recouvert par la mer. Mais vous en avez plein. Vous savez, c'est un millefeuille géologique. Je me souviens, on avait parlé avec des responsables de différentes sociétés françaises spécialisées là-dedans. On a fini de sucer une nappe, mais bon, on va tomber sur une croûte de sel, sans doute, peut-être parfois d'épaisseur de 200 mètres. On rigole pas, hein, dans tout ce qui est tectonique. Mais au-dessus, vous aurez une flaque plus importante. Non, le problème, c'est peut-être d'ailleurs qu'il y a encore du pétrole. Mais c'est les émissions de CO2 qui posent problème. Il faut le savoir, la mer nous rend un service incroyable. C'est d'absorber entre 30 à 40%, au dernier pointage, on serait plutôt de l'ordre de 37% de nos émissions de CO2. Si la mer ne rendait pas ce service inouï d'absorber quelques 37% de nos émissions de CO2, il y a très longtemps que nous aurions une pédagogie du masque beaucoup plus avancée. Donc on voit bien, sauf que, vu le boulot qu'elle fait, la mer s'acidifie. Alors, rassurez-vous, hein, la mer risque rien. Hein. On dit toujours à faire des gestes pour sauver la planète. Le problème, c'est lorsqu'on formule ça. C'est-à-dire qu'on se prend pour les apprentis sorciers pour cette sortie de penser qu'on va sauver la nature. Non. Les deux menacés dans la nature aujourd'hui sont les humains et les abeilles. Hein. Donc la mer, l'océan mondial a déjà vécu à 362 degrés. C'est les humains qui disjonctent à 42. Donc il faut mettre les choses en perspective, hein, globalement. Prenez l'exemple. Aujourd'hui, l'océan mondial s'acidifie. C'est-à-dire l'absorption de ces émissions de CO2 provoque une acidification qui est en passe de produire une rupture d'équilibre. Donc l'océan mondial, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs j'en profite pour le dire, lors de la COP21, la célébrissime COP21 qui s'est produite à Paris, l'océan était quasiment aux abonnés absents. Maintenant, on commence à en parler de plus en plus, on parle de plus en plus de la machine océan-climat, donc vous voyez, on est dans le temps de l'océan mondial, parce que tous nos problèmes, tous nos défis ont une solution au niveau de la mer, ou si on n'utilise pas la mer avec intelligence, eh bien on n'aura pas ces raisons. Donc vous voyez, la mer préside aux grands équilibres. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut aller servir en mer comme on en a fait sur Terre ou qu'il faut considérer la mer comme un nouvel hypermarché géant. Il faut sans doute un autre rapport. Et c'est là où c'est fascinant, parce que si nous étions un peu plus modestes ou un peu plus aimants ou un peu plus émerveillés, on est en train de se rendre compte, dans le cadre d'une autre manière de voir ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bioaspiration, que la mer, ou plutôt les êtres qui y vivent, les êtres vivants qui y vivent, savent faire des choses que nous ne savons même pas faire, nous humains. C'est intéressant, plutôt que d'aller piller, se servir, de regarder, de contempler cet univers marin. Ils savent faire des choses qu'on ne sait pas faire, qui servent d'inspiration, qui nous permettent de gagner du temps. C'est-à-dire que l'observation de la mer nous ouvre sur un infini incroyable.
Et surtout sur une attitude différente.
Et une attitude différente, et peut-être une manière d'être différente. Vous savez, on parle beaucoup de bien-être, mais l'humain a un rapport à l'eau qui correspond à son bien-être. On dit toujours, les poètes ont toujours raison, mais sans doute, mais ils ont raison parfois avant les autres. J'aime beaucoup ce poète qui s'appelle Saint-John Perse, etc., qui a écrit un recueil de poèmes sur la mer qui s'appelle « Amer ». Et avant que les scientifiques nous le montrent dans les années 90-2000, c'est-à-dire que l'humain procède de la mer, comme toute forme de vie, il écrit déjà « Nous sommes des exondés ». C'est-à-dire qu'il avait le sentiment, une prise de conscience d'un sentiment océanique qui vit en nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne mesurait pas, mais on voit bien que nous avons un rapport à l'eau. Et puis n'oublions pas, en français c'est amusant parce que c'est presque homonymique, nous avons tous à quelques semaines près passé 9 mois dans le ventre de notre mère aimée. Donc Nous sommes des êtres marins.
Et justement, Christian Bucher, je rappelle que vous avez été le directeur scientifique du projet Océanide et que vous êtes aussi directeur du Centre d'études de la mer de l'Académie de Marine. Donc, je rappelle que vous êtes tout ceci. Et donc, on arrive, Christian Bucher, à la fin de cette interview. On va se projeter un peu. Ma question est la suivante. Est-ce que l'océano-temporin, c'est la dernière étape du voyage ou est-ce que, potentiellement, il pourrait y avoir un quatrième temps ?
Ah, tout est possible. Qu'il n'y a jamais de déterminisme. L'histoire ne tourne jamais en rond. L'histoire avance. Il y a un sens de l'histoire qui peut être linéaire ou circulaire. Mais dans tous les cas de figure, ça ne tourne jamais en rond. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça n'arrive pas tous les quatre matins, changement d'histoire. Finalement, depuis 5000 ans, il y a eu deux temps derrière nous. Et nous avons la chance incroyable de vivre l'entrée dans ce troisième temps de l'histoire, qui est un temps d'opportunité. Parce que quand vous êtes au cœur d'une période historique, vous êtes sur des rails. Hein. Alors évidemment, si vous aimez une période calme et tranquille, vous êtes mal né. Hein. Mais si vous aimez les opportunités, la nouveauté, la capacité à voir, penser, imaginer autrement, c'est génial. Et après, est-ce qu'il y aura une suite ? J'en sais rien, mais... Restons à notre juste dimension. C'est pas nous qui menaçons la nature. La nature provoque des contre-coups qui sont problématiques. Ce qui est menacé, c'est pas la nature, c'est l'humain, ce sont les abeilles. Et c'est pas à échelle humaine que les choses se passent. Donc, je dirais, nous avons quand même une responsabilité particulière aujourd'hui face aux questions environnementales. Là encore, c'est le maritime qui donnera les solutions. Mais, encore une fois, ça suppose de penser, d'avoir différemment. Moi, je suis frappé, je terminerai par ça en disant que les historiens montrent qu'à chaque fois que vous passez d'une période à une autre, il y a une nouvelle manière de voir, d'avoir et d'être. Et j'en profite pour rebondir là-dessus en disant... Tout autre mode de consommation qui prend naissance, qui prend racine par les échanges, c'est-à-dire par le temps de l'Atlantique, est basé sur, il y a deux auxiliaires dans les langues latines, avoir et être. Tout est basé sur l'avoir. Mais c'est de dire en un mot, la consommation va être de plus en plus basée sur l'auxiliaire être. Oui, sans doute, lorsqu'on a satisfait ses besoins, les primaires, alimentaires, etc. Mais on voit bien, ce qui rend heureux, ce qui est le but, c'est pas l'accumulation de biens matériels, c'est... être mieux, mieux être. Ce qui pose au-delà de tout ça, et c'est ça que c'est passionnant l'histoire, ça pose la question du sens de l'histoire. D'une période historique à une autre, le sens de l'histoire n'est pas le même. On termine là-dessus. Jusqu'à la Renaissance, la notion de progrès, le mot progrès n'existait pas, c'était une tension, non pas vers un futur, mais vers un passé. C'était retrouver un paradis perdu, c'était retrouver un tâche d'or. Et puis la Renaissance, on se projette vers un avenir. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est pas simplement une projection linéaire ou vers le passé, qui était l'Est, ou vers l'avenir qu'est l'Ouest, comme par hasard 1492, l'Ouest, enfin l'Ouest. Aujourd'hui, on rentre dans un sens qui est plus compliqué. On voit bien que toujours plus, ce n'est pas la solution. Donc oui, la linéarité, mais il y a une recherche de verticalité. Et quand vous croisez l'horizontalité, la verticalité, ça se possède, c'est mes travaux un peu personnels, vous vous rendez compte que vous passez dans une période qui est plus compliquée, qui n'est pas le temps du plat, qui n'est pas le temps du linéaire, qui est le temps du tri, du quadridimensionnel. Et ça suppose de gérer le complexe. Nous sommes, le temps de l'océan mondial, c'est le complexe. C'est bien pour ça que la mer qu'on a vue uniquement à travers une seule dimension, c'est ce qu'on a dit, elle a quatre dimensions. Il faut penser le complexe. Donc il y a urgence aujourd'hui. On parle souvent de réarmement par ces temps difficiles. Je plaide personnellement pour un réarmement intellectuel, qui est un réarmement non pas de connaissances, mais un réarmement méthodologique. Nous n'avons pas les bonnes méthodes, nous n'avons pas les bonnes lunettes. Tous ceux qui, comme moi et comme vous, avons la malchance d'avoir des lunettes, savent très bien que tous les deux ans, au pire, il faut repasser chez l'ophtalmo, il faut changer de lunettes.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian Bucher. Alors, pour résumer, si on fait un bilan de cet épisode, le projet Océanide a permis de percevoir l'histoire sous trois temporalités distinctes et complémentaires. On a évoqué le temps des Méditerranées, le temps de l'Atlantique et l'océano-temporin.
Ou l'océan mondial.
Chacune de ces temporalités possède ses caractéristiques propres et apporte un regard nouveau sur l'histoire et le monde actuel. Mais si on s'arrêtait là, le raisonnement serait un peu incomplet. Océanide n'a pas seulement amené à percevoir l'histoire différemment, il a aussi permis de mettre en évidence le rôle majeur de la mer dans la géopolitique. Et alors du coup, on peut se poser une question, à partir de quel moment l'espace maritime est-il devenu un enjeu de pouvoir ? Comment est né le concept de thalassocratie ? Quels ont été les facteurs et les évolutions clés qui ont mené au développement des marines actuelles ? Eh bien pour en savoir plus, on se donne rendez-vous dans le deuxième épisode de ce hors-série consacré au projet Océanide. Christian Bucher, merci beaucoup.
Merci à vous.